franceinter.fr.
À la une de la science, les effets de nos produits de consommation sur la biodiversité.
Il faut arrêter de manger du Nutella parce que c'est l'huile de palme qui a remplacé les arbres et donc il y a eu des dégâts considérables.
Vous pouvez faire couler toute une boîte en disant qu'il ne faut pas manger de Nutella.
Il faut qu'ils utilisent d'autres matières premières.
Ségolène Royal s'insurgeant contre les effets sur la nature d'un produit de consommation courante. La ministre a ensuite un peu rétropédalé sur ce sujet. Alors, identifier les points chauds des espèces menacées par les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est le titre d'une étude qui vient de paraître dans le numéro 1 de Nature, Écologie et Évolution. Les deux chercheurs norvégiens et japonais associent à des points chauds d'espèces menacées, les fameux hotspots, des secteurs industriels, agriculture, exploitation forestière ou transport et remonte la chaîne de production jusqu'à nos objets de production. Pour en discuter avec nous, nous sommes en ligne avec François Letourneux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'UICN France, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors on sait que l'homme est une menace pour la biodiversité, mais là on envisage la logique de conservation des espèces du point de vue du consommateur, c'est ça?
C'est un peu ça, oui. En fait, on a toujours tendance à rester chez soi et à considérer que le tort qu'on fait à la nature, on le fait aux espèces animales et végétales qui nous entourent quand on utilise des pesticides ou quand on défriche en France. En fait, le fait d'être un pays riche nous conduit à aller détruire la nature très loin. Lorsque nous achetons des produits dans lesquels il y a de l'huile de palme, vous venez d'en parler, si on ne fait pas attention, on contribue à la déforestation en Birmanie.
Agnès.
Oui, alors quels sont les résultats observés dans cette étude? Est-ce qu'on peut citer des exemples de ces hotspots justement perturbés par des consommateurs américains, européens ou japonais?
Alors déjà, c'est intéressant, ces hotspots, ils ont été constitués à partir de la liste des espèces spécialement menacées de l'UICN. On est parti de cette liste qui a l'énorme qualité d'être extrêmement sérieuse scientifiquement et le petit défaut de ne concerner que des espèces très visibles, ou pour l'essentiel des espèces très visibles. Néanmoins, à partir de ces espèces menacées, on a déterminé des endroits dans lesquels il y a à la fois beaucoup d'espèces rares, beaucoup d'espèces menacées, et en même temps beaucoup de pression. Beaucoup de pression pour l'exportation, pour les États-Unis, pour le Japon, pour l'Europe. Et on a ensuite essayé de calculer dans cette étude quelle est l'importance de cette pression. Qu'est-ce qui, dans le déclin d'une espèce, par exemple le lynx pardel en Espagne, est imputable à l'Espagne, c'est-à-dire à des choses que l'Espagne peut réguler elle-même, et qu'est-ce qui est imputable à d'autres pays, tout simplement parce que ces pays achètent de plus en plus d'huile d'olive, et que pour faire de l'huile d'olive, on fait des barrages en collinaire, et qu'en faisant des barrages collinaires, on perturbe l'habitat du lynx pardel, qui est endémique de l'Espagne du Sud, et que ce lynx pardel disparaît.
En fait, aussi bien la nature est organisée en écosystème, tout se tient, mais notre production et notre consommation aussi est très liée et complètement mondialisée. Donc les effets peuvent être avec des répercussions très lointaines.
Voilà, et c'est important de se rendre compte que notre principale responsabilité dans la destruction de la biodiversité, elle tient au fait que nous sommes un pays riche, un pays du Nord, et que c'est dans les pays du Sud que, sans nous en rendre compte, nous causons des dégâts. Alors pendant ce temps-là, notre politique, mais comme celle de tous les pays développés, elle conduit à mettre beaucoup d'argent Elle conduit à mettre l'essentiel de l'argent qu'on y met sur la protection de la nature dans notre pays, à créer des parcs nationaux, à préserver des espèces. Et dans le même temps, c'est ailleurs que nous faisons le plus de dégâts.
Agnès.
C'est ce qu'on voit justement avec cette carte du monde. Il y a 187 pays représentés. Et on voit par exemple que nous, consommateurs de l'Union européenne, on affecte plusieurs points chauds pour la biodiversité en Afrique. Il y a Madagascar, l'Éthiopie, la Corne de l'Afrique, le Maroc. On peut l'associer avec certaines industries en particulier, ça, François Letourneux?
Bah oui, on peut évidemment, en premier lieu, l'associer avec l'importation de bois exotique.
Ouais, donc pour Madagascar
évidemment,
notamment.
Lorsqu'on coupe à l'excès, lorsqu'on dérange des espèces qui ont besoin d'être tranquilles en forêt, et c'est le cas notamment des grands singes, bah c'est évidemment catastrophique. Alors évidemment aussi, nous essayons de créer des labels de qualité, de faire en sorte qu'on ne fasse plus de destruction illégale, mais le simple fait qu'il y ait un marché économique très porteur sur les bois exotiques fait qu'à côté de ces bois produits produits sous label, il y a des quantités de bois produites pas sous label et qui sont vendues à des pays un peu moins regardants que d'autres.
François Le Tourneux, vous citez donc la production ou en tout cas l'exploitation de bois exotique. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs particulièrement destructeurs pour la biodiversité ?
Tous les éléments industriels qui impliquent une modification des milieux naturels peuvent avoir des conséquences très graves et sans qu'on s'en rende vraiment compte. Quand on remplace une culture vivrière faite de petites parcelles en Afrique, faite de petites parcelles cultivées par chaque agriculteur pour sa famille, par d'immenses territoire en monoculture d'arachide ou en monoculture de produits d'exportation, on a le même impact en Afrique que celui qu'on a en Europe lorsque on a des milliers d'hectares de colza, c'est-à-dire que en plus que ce colza est traité aux pesticides, c'est-à-dire que on a un effondrement des populations d'insectes et par conséquent un effondrement des populations d'oiseaux qui se nourrissent des insectes et par conséquent des conséquences sur la santé des êtres humains et une modification profonde de ce tissu vivant de la planète dont nous vivons.
Mmh. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, là, ces hotspots, ces points chauds se réfèrent aux quelques 6000 espèces menacées qui figurent dans la liste rouge de l'UICN. Est-ce que c'est un bon indicateur ?
Alors c'est un bon indicateur, insuffisant mais indispensable.
Pourquoi insuffisant ?
Insuffisant parce que, par exemple, les Anglais ont piloté une étude il y a 2 ans sur comment évoluent les populations de 144 espèces d'oiseaux nicheurs en Europe. Et cette étude, elle démontre que, paradoxalement, pendant que les espèces rares et menacées voient leur situation plutôt s'améliorer parce qu'on s'en occupe, parce qu'on y met des moyens, parce qu'on réintroduit le gypaète barbu ou qu'on s'occupe actuellement d'essayer de sauver le hamster d'Alsace, pendant ce temps-là, qui n'est pas un oiseau, pendant ce temps-là, c'est les oiseaux communs, les oiseaux ordinaires qui, en silence, sans être vraiment menacés, voient leurs effectifs s'effondrer.
Donc qui pourraient être les espèces
millions,
menacées demain.
Des millions d'oiseaux en nombre dans des populations, dans des espèces qui ne sont pas menacées, qui ont disparu, et avec eux, tous les services qu'ils rendaient aux écosystèmes. Lorsque vous circulez en voiture sur les routes de France, combien de fois avez-vous à nettoyer votre pare-brise parce qu'il est complètement encombré d'insectes ? Plus jamais. Or, tous les gens qui ont plus de 50 ans se souviennent que quand on roulait en voiture sur la route française, on avait une bouillie d'insectes sur le pare-brise. C'est l'intensification agricole.
François Le Tourneux, on se dit en voyant cette étude que peut-être qu'elle servira à des gouvernements pour légiférer, essayer d'améliorer les choses. Est-ce que aussi individuellement, on peut changer nos pratiques de consommateurs pour, à notre échelle, essayer de préserver la biodiversité ?
Oui, c'est l'un des grands intérêts de cette étude. Elle va certainement servir de base à des tas de poursuites, d'approfondissement, etc. Mais dès à présent, ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint une idée qu'on a pour d'autres raisons, qui est celle du souci de travailler localement. Lorsqu'on travaille localement, lorsqu'on achète des produits locaux, lorsqu'on s'intéresse à la manière dont ils sont produits, parce qu'ils sont produits près de chez nous, lorsqu'on travaille avec ceux qui les produisent pour améliorer les conditions de cette production, on fait moins de dégâts que quand on fait confiance à des importateurs pour nous livrer n'importe quoi venant de n'importe où.
Et bien voilà, comme ça c'est dit. Merci François Le Tourneux pour cet avis éclairé. Et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'intelligence du poulet sous-estimée. On le considère souvent comme un animal stupide et irréfléchi. Pourtant, le poulet développe des capacités cognitives et sociales similaires aux autres oiseaux. C'est ce qu'affirme un article publié dans le journal Animal Cognition qui passe en revue de récentes recherches concernant ce volatile. Ainsi, les poulets savent raisonner par déduction, ont une mémoire des mouvements semblable à celle des primates et utilisent pour communiquer un savant répertoire de 24 vocalises différentes. L'imbattable joueur de Go en ligne est démasqué. Ces derniers jours, un mystérieux joueur, dénommé Master, balayait l'un après l'autre les membres d'une plateforme de jeux de Go en ligne, jusqu'à battre le meilleur joueur du réseau à 2 reprises. Après l'apparition de nombreuses rumeurs, la société DeepMind a confirmé que c'était bien son programme d'intelligence artificielle AlphaGo qui se cachait derrière ses victoires. C'est ainsi que le programme s'améliore, chaque partie lui permettant d'optimiser son jeu. Les secrets du nuage d'Orion dévoilé, le télescope européen Vista, basé dans un désert chilien, a réussi à percer un nuage opaque qui entoure la nébuleuse d'Orion. Grâce à la haute résolution de l'instrument dans le domaine de l'infrarouge, les scientifiques peuvent désormais précisément observer l'intérieur du nuage Orion A, la pouponnière d'étoiles massives la plus proche de nous. Pour jeter un œil à cette voisine cosmique, rendez-vous sur la page Facebook de La Tête au Carré.